RCF.
RCF 18-19 régional avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Comme on le dit chaque soir, et pourtant nous répétons peu la même chose, c'est quand même encore un beau programme.
Effectivement Jean-Pierre, et peut-être que vous le savez, vous qui êtes un passionné de cyclisme, qui souvent empruntez la voie verte dans les Ardennes à vélo, le Tour de France, c'est officiel, c'est un secret polichinelle, passera par la région Champagne-Ardennes. Il fera étape en Haute-Marne et également dans l'Aube à Troyes avec une boucle 3-3 de près de 200 km.
Mais pas dans la Marne et les Ardennes.
Pas dans la Marne et les Ardennes, on ne peut pas peut tout pas le monde tout avoir.
Voilà. Bah non, il faut se partager.
Mais on aura la flamme olympique aussi.
Parmi les chroniqueurs habituels du mercredi, évidemment, Robert Auverger. Bonsoir Robert.
Bonsoir Jean-Pierre.
On vous retrouve dans un instant. Et puis Fernand Tavares.
Bonsoir Jean-Pierre.
Qu'y a-t-il dans le reste du programme Alexis?
Un maire qui vous parle Jean-Pierre, on ira du côté de Vouziers ce soir.
Avec Yann Dugard.
Et puis également Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. On l'avait promis à nos auditeurs hier, il reviendra sur l'assemblée Kérigma qui a été organisée à Lourdes le week-end dernier. Il y a participé avec une délégation du diocèse de Reims et des Ardennes, mais il y avait aussi une délégation du diocèse de Châlons, Jean-Pierre.
On aura l'occasion de reparler. Il y a d'ailleurs quelques anecdotes, puisque vous savez que le train qui a conduit ces diocésains a eu énormément de retard.
Et ils n'ont pas pu participer à la séance du vendredi.
Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils avaient demandé à chaque diocèse de France d'amener des spécialités culinaires. Et il se fait que dans le train, évidemment, comme il était bloqué à Bordeaux, il y avait des spécialités un peu champenoises. Mais il y avait un autre groupe qui était là, d'un autre diocèse des régions parisiennes, qui avait des spécialités. Ils ont tous sorti et ils ont mis une sorte de petit tréteau sur le quai de la gare. Ils ont tous...
Vous nous racontez ça comme si vous y étiez, Jean-Pierre.
Ah ben oui, mais on m'a raconté ça.
En inside.
Extraordinaire. Et Monseigneur Moulin-Beaufort mettait la main à la pâte.
Ah bien ça, c'est extraordinaire. C'est les belles aventures, des fois, c'est les petites histoires comme ça qui forment la grande histoire, j'allais dire.
Absolument. Alors, Fernand, avant de retrouver Robert dans une poignée de secondes, il sera question évidemment d'Israël encore aujourd'hui.
Effectivement, au Parlement, on en a pas mal parlé, un peu plus à l'Assemblée nationale hier qu'aujourd'hui au Sénat, mais il y a une explication. Le président de la République, Emmanuel Macron, est sur place, du côté israélien comme du côté palestinien. C'est de la très haute diplomatie. Il entend tout et son contraire. Mais en même temps, si certains Israéliens approuvent les démarches qu'il fait pour faire en sorte que les otages soient libérés, ça c'est approuvé à 100%. D'un autre côté, du côté palestinien, on reproche à la France d'oublier la population civile. Et c'est pourquoi, dès demain, a annoncé le président de la République, un bateau hospitalier français va quitter l'Hexagone pour aller sur place alimenter les hôpitaux de Gaza.
Et puis on y reviendra, c'est une petite anecdote, mais très très court, il faut faire très très court. Robert est là, on ne va pas prendre du temps sur sa chronique, Robert. Il faut dire, Fernand, que les agriculteurs, enfin que les maires de
oui.
villages qui sont touchés par des inondations ou par des émeutes, qui font appel aux assurances, les assurances sont en train de leur envoyer des lettres.
Alors il y a un signal d'alarme qui a été tiré cet après-midi au Sénat, où un maire a expliqué que, en raison des intempéries ou à la suite des émeutes, il se retrouve avec des factures énormes à régler, salle des fêtes démontée, banques, institutions.
Alors les assurances sont là aussi.
Les assurances ont payé cette fois-ci.
Mais maintenant, ils n'en veulent plus.
Mais dans certaines communes, les maires ont reçu de leur assurance historique une lettre de résiliation. À cause de cela, c'est-à-dire que l'assurance dit maintenant on n'aura plus les moyens si ça recommence.
Eh bien ça c'est une question qu'on pourra poser tout à l'heure ou pendant d'autres émissions au maire qui nous parle. On retrouve tout de suite Robert Auverger avec nous. Bonsoir Robert.
Bonsoir Jean-Pierre.
Alors c'est vrai que s'il est un sujet qui nous concerne tous dans votre émission en un mot, vous avez choisi un mot un peu particulier aujourd'hui, c'est bien celui de l'Europe dont nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer, présentez-nous un bref historique de l'Europe. L'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui, quelle est la date exacte de la naissance de la construction européenne?
Eh bien, en collaboration avec Jean Monnet, Robert Schuman, dans un désir de paix, élabora le plan qui porte son nom, plan qu'il présenta en 1950. Alors l'année suivante, et fondé la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
La fameuse CECA, avant que ne soit établie la CEE, la Communauté économique européenne.
Oui, la CEE est établie par le traité de Rome 6 ans plus tard, c'est-à-dire en 1957. CEE qui sera rebaptisée UE, Union européenne, en 1993.
Alors, en quelques mots, comment cette Union européenne a-t-elle évolué ?
Depuis le début du XXIe siècle, après la chute de l'Union soviétique, on a assisté à un élargissement vers l'Est. L'Union européenne passe de 15 à 25 pays, 25 pays en 2004, à 27 en 2007, puis à 28 en 2013 et à nouveau à 27 depuis, bien sûr, le Brexit de 2020.
Alors, 27 pays, sur combien de pays que compte l'Europe ?
50.
Ah oui, alors c'est pas tout le monde, mais voilà. Après ce bref rappel historique, venons-en au mot, au nom Europe lui-même. D'où vient-il ce mot Europe ?
Eh bien, il y a deux théories. Une théorie dite phénicienne, selon laquelle Europe viendrait 700 ans avant notre ère du phénicien Éreb, qui signifie le couchant, l'ouest du continent. Et puis une deuxième théorie qui nous amène dans la mythologie, c'est la théorie qui est en général la plus adoptée.
Alors, on va faire un petit tour par la mythologie que vous connaissez parfaitement. Et on se souvient qu'il y avait beaucoup d'auditeurs qui nous disaient « excellente émission », mais des auditeurs de Chalon qui nous ont appelés. Alors, faisons un détour par la mythologie, parce que vous aviez une émission sur ce sujet. Et d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué depuis un certain temps.
Oui, eh bien écoutez, dans la mythologie grecque, Europe était une princesse. Elle était la fille d'Agénor, qui était le roi de Tyr, en Phénicie.
La Phénicie que l'on situerait à peu près où aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, ça se situerait, disons, à l'est de la Méditerranée. Ça correspond grosso modo aux actuels Liban, Syrie, Israël et Palestine.
Alors qu'avait de particulier cette jeune fille prénommée Europe ?
Ah, elle avait de grands yeux, elle avait de très beaux yeux, d'où son nom d'ailleurs, puisque en grec, « e » signifie « bon », comme par exemple dans « euphorique ». Son dérivé « eurus » signifie « large » et « ops », c'est l'œil, d'où « eurus, ops, Europe ».
Alors de grands et beaux jours ne suffisent pas à expliquer qu'elle ait un jour donné son nom à un continent. Alors comment expliquer ça ?
Eh bien un jour, le maître des dieux de la mythologie grecque, Zeus, c'est-à-dire Jupiter en latin, aperçoit une jeune fille qui se promène et qui cueille des fleurs dans une prairie au bord de la mer, en compagnie de ses amis les nymphes, et il la trouve très belle.
Tellement belle qu'on imagine Zeus en tomber aussitôt fou amoureux.
Et oui, fatalement. Alors, afin de l'approcher, pour ne pas subir les foudres de sa sœur, qui était en même temps sa terrible épouse, Héra, Zeus se métamorphose en taureau blanc, comme neige, orné d'une magnifique corne en forme de croissant.
Et évidemment encore, Europe s'approche, probablement intriguée et attirée par cette blancheur et cette corne inhabituelle chez un taureau.
Ben oui, elle s'approche et puis elle le caresse. Alors, malin, le taureau se couche à ses pieds. Alors, subjuguée, l'imprudente princesse en profite pour grimper sur son dos. Et aussitôt, comme elle aurait dû s'y attendre, le taureau se redresse et, malgré les cris de frayeur de la belle, il l'emporte, il traverse la mer Égée à la nage jusque dans l'île de Crète, où il reprend apparence humaine.
Et il l'emporte donc chez les Grecs.
Oui, c'est-à-dire chez les Européens originels. Alors l'Europe dans l'Antiquité, depuis 2 millénaires avant l'ère chrétienne, d'abord en Crète puis en Grèce continentale, est le berceau méditerranéen de nos civilisations. En résumé, on peut dire que notre Europe actuelle est donc le résultat d'un transport à la fois amoureux et géographique.
Comment a évolué cette Europe ? Je parle du continent, hein, pas de la jeune fille.
Bien sûr, oui. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, l'épopée de l'Europe est jalonnée de conquêtes matérielles et culturelles, mais aussi, jusqu'au milieu du XXe siècle, de luttes terribles, de violences inouïes. Mais voilà qu'après de terribles conflits...
Notamment les guerres napoléoniennes, mais surtout les deux terribles guerres du XXe siècle.
Oui, parmi d'autres, ces conflits mettent l'Europe et parfois le monde à feu et à sang. Mais va ensuite apparaître une belle idée, aussi belle que la belle Europe, l'idée d'union entre une grande partie des peuples de notre continent dans un souci de paix durable.
Idée qui prendra corps à partir des années 50, comme vous nous l'avez dit en début d'émission, avec aujourd'hui quelques pays qui, au vu de la conjoncture actuelle, frappent à notre porte. Alors vous avez une ou deux citations pour terminer
bien
aujourd'hui ?
Bien sûr, par exemple, aux yeux de Robert Schuman, la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques.
Alors, vous puis le disiez autre, aussi,
si vous voulez.
Vous en avez une deuxième.
Oui, lors d'un discours à l'Assemblée nationale, en 1871 déjà, Victor Hugo s'écrit « Soyons la même République, soyons les États-Unis d'Europe, soyons la Fédération continentale, soyons la liberté européenne, soyons la paix universelle. »
Eh bien ça, c'est du Victor Hugo, c'est ah, beau, oui. Ça, c'est, oui. C'est à lire dans le texte. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Robert Auverger, la semaine prochaine.
Humanitaire.
Humanitaire, le mot humanitaire. Merci, bonne semaine, à la semaine prochaine.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
À peine le temps de souffler pour vous, Jean-Pierre, ce soir dans le magazine régional à 18h21. Notre maire ce soir est l'édile de Vouziers, Yann Dugard. Entretien à retrouver à votre micro.
Yann Dugard, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs.
Alors c'est vrai qu'on connaît parce qu'on a une émission, vous y êtes sur notre antenne, on connaît déjà bien Vouziers et sa région, mais c'est quand même l'occasion pour nous avec vous aujourd'hui de présenter la commune de Vouziers, sa population. C'est quand même une commune importante pour le département des Ardennes.
Oui, c'est vrai que c'est une commune qui est un centre-bourg, un chef-lieu d'arrondissement, donc qui comporte 4300 habitants. Hein, et qui est quand même voilà, une centralité. On est à peu près à équidistance de 50 minutes à une heure des grosses villes qui nous entourent, Charleville-Mézières, Reims, Chalon, Verdun. Donc voilà, on a une forme de centralité rurale.
Alors c'est vrai, Yann Dugard, que vous êtes maire depuis, je crois, 2014. Quelles ont été vos motivations pour être maire? C'était dans votre ADN, au fond?
Ben disons que oui et non, parce que j'avais envie de m'investir pour le public, pour les gens, et je m'étais rapproché d'un club service local pour justement apporter mon service à la population. Et dans le cadre d'une démarche de construire une liste électorale pour les élections, justement, ben il s'est trouvé qu'à force de chercher, on m'a dit ben écoute, maintenant que tu as constitué une liste, ben pourquoi tu n'irais pas? Et c'est là que j'ai découvert j'ai été élu bien sûr avec mon équipe, et c'est là que j'ai découvert la fonction de maire. Et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi intéressant, excitant et motivant de pouvoir avoir une telle fonction sur une commune et un peu plus large, puisque sur l'intercommunalité, aujourd'hui le département, j'ai aussi des fonctions électives.
Alors c'est vrai, Diane Dugard, vous avez d'autres fonctions et vous êtes élu aussi dans d'autres responsabilités, hein?
Oui, donc je suis premier vice-président de l'intercommunalité donc de l'Argonne ardennaise, hein, qui comporte 100 communes, donc c'est une interco XL. Et puis je suis élu au conseil départemental, à la commission sport, culture, éducation.
Conseiller départemental des Ardennes. Alors, comment peut-on caractériser Vouziers aujourd'hui?
Aujourd'hui, Vouziers, c'est un centre-bourg. Avec quand même une présence de commerce assez importante, hein, de par justement cette distance avec les premiers services proches, hein, le plus proche c'est Rethel, donc il y a quand même une présence assez importante de tous les services de l'État, services à la population, donc c'est ce qui caractérise un peu la particularité tout en étant dans une ultra-ruralité.
Certains, mais bon, pas tous, mais quand il y a des tout petites communes qui sont dans une grosse communauté de communes, ils se disent, bon, est-ce que je suis encore maire? Enfin bon, tout le monde ne dit pas ça. Mais vous, comme vous êtes à la fois à Vouziers, mais aussi dans la communauté de communes, est-ce que, bon, malgré tout, le patron chez lui, c'est encore le maire? C'est un peu une formule réductrice, hein.
Ben disons que c'est surtout lié au transfert de compétences qu'on peut être demandé ou enfin fait par les communes auprès de leur intercommunalité. C'est vrai que cette idée qui peut être existante, parce qu'elle est souvent relevée, c'est de perdre certains pouvoirs, certaines maîtrises, mais elle est liée à ce que les gens ont bien voulu transférer. Les maires, voilà, pour l'intercommunalité de l'Argonne-Ardennaise, bon, les ordures ménagères sont plus de la compétence des mairies, ça a été transféré à l'interco, par exemple. Donc voilà, je pense que sur un territoire comme le nôtre, il y a encore beaucoup de choses qui sont restées à la maîtrise des maires, ce qui leur donne quand même encore beaucoup de responsabilités et interviennent sur beaucoup de sujets.
Mais beaucoup dans les sondages qu'on voit apparaître un peu partout disent que le maire, c'est quand même l'élu le plus proche, hein, je veux dire. Il y avait Gérard Larcher, je crois, au Sénat, qui utilisait une expression un peu familière, à portée d'engueulade. Vous voyez, voilà, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, il vous dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez tomber sur des gens un peu énervés, mais vous les pardonnez, parce que bon, ils sont irrités. Et puis d'autres qui sont contents. C'est ça le contact avec les habitants? Yann Dugard.
Oui, bien sûr, on va au pain, on fait nos courses. Alors après, avec le, bien sûr, l'importance des fonctions, on est plus ou moins présent dans la commune, mais c'est vrai qu'on est en contact direct avec la, la population, puisqu'on vit dans notre commune et on a des temps de rencontre opportunistes ou provoqués dans le cas des réunions publiques, par exemple. Donc effectivement, on est en contact. Oui.
Les demandes, ce qu'on vous demande le plus en ce moment, que vous rencontrez quelqu'un, les requêtes, les questions formulées très rapidement, parce que le temps passe vite, hein, Yann Dugard.
Oui. Le cadre de vie. Le cadre de vie chez nous est assez important. La propreté, quelques sujets sur la sécurité qui émergent. Voilà, ce sentiment peut-être d'insécurité. Alors c'est lié à tout ce qui est relié aujourd'hui dans les médias, sûrement, mais qui est une alerte. Donc principalement sur ces sujets-là, oui.
Alors vos projets, les projets en cours pour vous y aller, ou à plus long terme, peut-être même au niveau de la communauté. Mais enfin, vos projets, Yann Dugard.
Alors là, on est sur la rénovation du centre-bourg, dans la requalification, donc un gros travail sur l'aménagement de la place centrale. Depuis plus d'un demi-siècle, il n'y a pas eu vraiment d'attention particulière, mais bon, voilà, c'est pas un procès, hein, c'est qu'un jugement. Donc là, il y a un gros travail de requalification du centre-bourg, de la place Carnot, de point de vue architectural, qui est mené. Et puis, par rapport à la voie verte arrive dans Vouziers, la voie verte Sud-Ardenne, et donc on est justement en train de créer cette liaison avec le cheminement vélo, piéton, avec la création, on va lancer une passerelle au-dessus de la rivière de l'Aisne, un peu comme l'a fait la ville de Rethel, pour avoir une liaison cycliste entre les différents itinéraires européens et transcanal.
Alors c'est vrai que toutes ces activités pour le maire aujourd'hui, c'est quand même assez lourd, hein, vie professionnelle mais aussi vie familiale. Vous arrivez à tout conjuguer, Yann Dugard, c'est pas facile de tout faire en même temps, hein.
Il y a beaucoup de compromis et de consensus à avoir. Alors voilà, en fonction de l'âge des enfants notamment, c'est là où c'est le plus important. Donc voilà, aujourd'hui, ça permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre puisque les enfants ont pris un peu d'âge, bien sûr, et ça libère un petit peu du temps. Mais c'est vrai qu'il faut concilier et on est souvent dans la discussion et le compromis.
Alors vous êtes à la mairie de Bonheur, votre journée, voilà, les réunions, les rencontres, à la fois les réunions et jamais perdre le contact avec le terrain.
Oui, c'est ça. Alors je me compare à un chef d'entreprise. Voilà, c'est le même investissement, je pense. Bon, 7h30, 8h à la mairie, et puis jusqu'à suivant les réunions. Hein, des fois, ça peut mener un petit peu loin dans la soirée. Mais je pense que c'est nécessaire. Hein. Après tout, on a des agents, on doit répondre à une attente de la population. Voilà, je pense que cette notion de patron, je l'assimile un peu à un chef d'entreprise qui doit faire tourner les choses et puis que ça marche le mieux possible. Et on est au service des gens, donc on doit toujours être disponible.
Et aujourd'hui, on cherche une qualité de vie, vous l'avez dit. Eh bien, à Vouziers, dans ces belles Ardennes, eh bien, vous avez quand même des atouts. Parce que peut-être des gens vont venir à Vouziers, peut-être qu'avec le télétravail, il y aura peut-être plus de possibilités. Ça aussi, ça va peut-être venir. Vous avez des gens qui viennent, vous avez des jeunes, des moins jeunes, des retraités, voilà.
Ben disons que oui, en tout cas, il y a eu une statistique qui est remontée au moment de la pandémie. Le département des Ardennes a été le département où il y a eu le plus de connexions pendant la pandémie, donc ça veut bien dire que le déploiement de la fibre a pu traduire ça, c'est-à-dire que énormément de gens sont revenus sur les Ardennes. On a des ventes de maisons de maîtres, ou en tout cas des belles maisons qui ont été achetées sur Vouziers. Il n'y a plus de maisons disponibles en ce moment, en tout cas de maisons dignes de ce nom, qui sont disponibles, et c'est des personnes justement qui viennent des grosses villes, des grandes agglomérations, qui sont plutôt revenues grâce au télétravail sur nos territoires ruraux comme une ville comme Vouziers.
Yann Dugard, vous êtes un maire heureux, comme on dit, malgré toutes les difficultés, le travail, etc. Mais on sent que vous êtes passionné, ça vous plaît?
Ah, je suis excité par... ça m'embête de dire ça, parce que ça va paraître un peu bizarre, mais oui, je suis investi de ça, et je suis très 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 heureux d'avoir été choisi dans les gens de Vouziers pour assumer cette charge. D'ailleurs, je dis charge parce que c'est la formule, mais non, moi je suis heureux de ça, ça m'intéresse, je suis vraiment dans mon truc. J'ai découvert quelque chose à 52 ans, moi j'ai 61 ans, mais quand j'ai été élu, j'avais 52 ans, et j'ai trouvé ça formidable.
Merci Yann Dugard, maire de Vouziers, d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
À bientôt, chaque soir et à midi, on retrouve l'émission Votre maire nous parle. En attendant, on s'approche mine de rien de 18h30 et à 18h30, que retrouve-t-on tous les soirs? Le journal régional qui nous est présenté en direct avec nous par Alexis Claudretz.
Les titres de ce mercredi 25 octobre 2023, l'année universitaire 2023-2024 se dessine bien pour l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Les effectifs sont stables et les formations dispensées à travers tout le territoire trouvent preneur. Cependant, la hausse des coûts de l'énergie et du budget sécurité demande parfois quelques ajustements. Cyclisme, la Haute-Marne accueillera la 8e étape du Tour de France 2024 avec une arrivée à Colombelles-les-Deux-Églises. L'Aube verra la tenue de la 9e étape à Troyes.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Vous le savez, Jean-Pierre, sur RCF, on n'est pas à la recherche du scoop, on regarde aussi ce qu'il se passe chez nos confrères, chez d'autres médias, et certainement que ça ne vous a pas échappé, mais un coup bien préparé, Rocéleste Média, qui regroupe l'Union, l'Ardennais, l'Est-Éclair et Libération Champagne, a une nouvelle personne à sa tête, en la personne de Géraldine Baird-Pastor, qui à 39 ans, succède officiellement à Danielle Picot. Celle qui était jusqu'alors directrice générale déléguée, devient maintenant directrice générale. Une décision prise hier lors du conseil d'administration ce mardi. Parmi les défis qui se présentent à elle, accélérer la transition digitale avec un objectif ambitieux que 10% des habitants de nos territoires soient abonnés aux marques de Rossel Est Media en 2027. De son côté, Danielle Picot se consacrera désormais à ses fonctions de directeur général délégué de la Voix du Nord et du groupe Rossel La Voix SA. Près de deux mois après la rentrée de septembre 2023-2024, à quelques jours des premières vacances universitaires qui débutent vendredi soir ou samedi soir selon les emplois du temps de chacun, le président de l'université Reims-Champagne-Ardenne a fait le bilan de cette nouvelle année scolaire. Construire une université disponible et plus proche des habitants avec davantage de formations professionnalisantes permet de conserver des effectifs stables. Guillaume Gelé, président de l'URCA.
L'idée, c'est de voir que nos politiques conduites avec les collectivités sur les sites délocalisés fonctionnent, donc avec des croissances qui sont importantes, notamment liées aux implantations de nos IUT. Donc à Charleville, on a une antenne d'IUT, à Chalon, on a une antenne de l'IUT de Reims, Chalon-Charleville, on a un IUT à Troyes, et on voit que le passage au bachelor universitaire de technologie, en créant de facto une troisième année à la suite de l'ancienne DUT, forcément augmente les flux d'étudiants. Donc ça, ça se voit sur les sites délocalisés plus qu'à Reims. Et puis après, par exemple sur Chaumont, c'est le fait d'avoir introduit un premier cycle qui n'existait pas auparavant. Et après, on va dire que c'est la vie des universités. On a moins de bacheliers dans l'Académie de Reims depuis maintenant plusieurs années. On a donc moins d'étudiants qui s'inscrivent en première année. Et donc, sur un certain nombre de diplômes, ça commence à se voir, mais c'est aussi compensé en partie par un chiffre d'étudiants internationaux qui est plutôt en légère hausse, ou au moins qui est constant. Et donc ça, c'est important. Et ce que nous avons maintenant à travailler, c'est aussi à développer nos formations plutôt de second cycle et notre formation doctorale, parce que l'enjeu est aussi un enjeu important en lien avec le projet scientifique de l'université. Donc nous avons besoin de plus d'étudiants en master, de plus d'étudiants en doctorat, pour porter l'ambition de nos chercheurs et de notre université en matière de bioéconomie, en matière de santé, en matière de sciences du numérique et de l'ingénieur, et puis bien sûr dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Dans un contexte international compliqué, la sécurisation de l'ensemble des sites est un enjeu majeur pour l'université.
On a des grands enjeux de sécurité importants, et puis notamment, nous sommes actuellement en Vigipirate alerte attentat, donc nous avons renforcé, nous avons pratiquement doublé les capacités de sécurité de l'ensemble de nos sites, voire même plus. Nous devons assurer une supervision dans un espace universitaire qui est très fragmenté, puisque l'université, c'est beaucoup de bâtiments, donc ça peut être un peu plus compliqué à faire que si on avait des bâtiments fermés où on pouvait faire uniquement du vitrage d'entrée. Donc tout ça, ça a un coût, mais c'est un coût qui est nécessaire pour assurer la sécurité des étudiants et des personnels. Et oui, c'est une priorité. Depuis plusieurs années, on développe aussi la vidéoprotection dans notre université. On travaille mieux à la coordination avec les forces de police, les forces de gendarmerie et l'université, notamment pour la sécurisation des espaces à proximité de l'université. Donc tout ça est un travail dans le temps qui s'est inscrit dans une logique, effectivement, de plus de sécurité sur nos campus. Et ça, ça a débuté très tôt, dans mon premier mandat, avec notamment aussi une révision de la circulation dans les campus. On a notamment fermé le campus Croix-Rouge à la circulation des véhicules, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tout ça, ça contribue aussi à la sécurisation.
Guillaume Gelé au micro de RCF Reims-Ardenne a noté que le président de l'URCA en poste depuis 2016, qui termine son deuxième mandat consécutif à la tête de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, quittera ses fonctions en mars 2024 comme l'oblige le cadre universitaire. On en parlera à la rentrée des vacances de la Toussaint. Amorisport Organisation Asso a dévoilé ce mercredi l'itinéraire du Tour de France 2024. Christopher Fausten a assisté à ce grand moment.
Et oui Alexis, la 111e édition du 29 juin au 21 juillet 2024 partira de Florence en Italie et arrivera à Nice. Elle mettra la Haute-Marne à l'honneur pour la première fois depuis le 9 juillet 2003, date à laquelle Joinville avait accueilli le centenaire du Tour. Le samedi 6 juillet prochain, le Tour de France 2024 traversera la Haute-Marne avec une arrivée aux abords de la Croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises. Une volonté politique et une étape historique pour le président du département de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix.
C'est le travail de près de 3 ans de discussion avec ASO et avec Christian Prudhomme. Une étape du Tour de France en Haute-Marne, c'est une volonté sur laquelle on travaille depuis un certain temps. Il fallait trouver les bons arguments pour arriver dans une commune de 400 habitants, à Colombey-les-Deux-Églises. C'est vrai qu'il y a de la logistique. Je pense que ça sera l'une des plus petites villes d'arrivée avec 400 habitants. Ce sera peut-être pas la plus belle étape sportive, en tout cas, ça sera une belle étape historique.
La commune de Colombey-les-Deux-Églises n'est pas étrangère au monde du cyclisme.
Ce qui s'est passé en 1960, quand le général de Gaulle a salué le Tour de France, et le Tour de France a mis un pied à terre pour saluer le général de Gaulle, la ligne d'arrivée va se trouver à quelques mètres de l'endroit même où le général de Gaulle avait salué le Tour de France. On a vraiment travaillé là-dessus. Une belle étape aussi parce que quasiment les 2/3 du département vont être traversés puisque le tour va arriver de Côte d'Or, va arriver par le sud-est du département pour arriver à Colombey. Le tour passera également à Chaumont. Je me réjouis de cette annonce. C'est vraiment un beau coup de projecteur sur le département de la Haute-Marne. En 10 jours, on aura la flamme olympique et puis ensuite le Tour de France.
Touché par l'histoire, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, sera ce vendredi à Colombey-les-Deux-Églises afin de déposer une gerbe sur la tombe du général de Gaulle.
Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne qui a réalisé ce reportage. L'Aube recevra donc la 9e étape avec une boucle de 199 km qui partira et arrivera à Troyes le dimanche 7 juillet avec une portion des chemins blancs longue de 32 km. Le Tour de France s'accordera une journée de repos avant la 10e étape entre Orléans et Saint-Amand-Montrond. La suite de la page sport, c'est d'abord un résultat de basket. En quart de finale aller de la Leaders Cup Pro B, le Champagne Basket a dominé Antibes 97-79. Une belle option avant le match retour dans quelques jours et un rendez-vous à vous donner aussi déjà en cours. Les Flammes sont en déplacement à Brno en République tchèque pour le 3e match d'Eurocoupe féminine. Le coup d'envoi a été donné à 18h. Actuellement, les Carolo-Massériennes sont malmenées puisqu'elles sont en train de perdre 34-17. Elles avaient perdu le premier quart-temps 16-13 et dans le deuxième quart-temps, elles prennent une raclée carrément 18-4 pour le moment. Il va falloir redresser la barre pour les Ardennaises qui avaient gagné leurs 2 premières rencontres. 18h38, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue avec d'ici quelques minutes Éric de Moulin-Beaufort qui sera notre invité, mais tout de suite c'est Fernand Tavares qui est là pour décrypter l'actualité avec Jean-Pierre Benoît.
Le 18-19
tous les jours
sur RCF
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Merci Alexis, on retrouve donc Fernand Tavares, c'est le mercredi Assemblée nationale, Parlement, c'est et souvent si on suit le Parlement c'est parce que il est un peu, j'allais dire, le creuset de ce qui se passe dans l'actualité politique et souvent il y a des questions d'actualité. Alors évidemment aujourd'hui, toujours et encore, depuis plusieurs jours, ça n'en finit plus, c'est évidemment Israël, Gaza, et on comprend pourquoi. Puis en plus le président Macron se trouve là-bas.
Bah écoutez, on va commencer par les dernières informations en provenance d'Israël et de Palestine, parce que le président de la République a rencontré évidemment les Israéliens et il a compati notamment avec les familles qui ont subi des drames, notamment des enfants assassinés, des pères assassinés, et des enfants et des parents encore retenus en otage. Il leur a promis de faire tout ce qu'il pouvait pour obtenir leur libération. Ça, c'est une chose. La dernière information ce soir, c'est que le président de la République s'est vu reprocher d'en faire trop pour Israël et pas suffisamment pour la Palestine. Alors aujourd'hui, il est allé voir les pays voisins, notamment les Palestiniens, et il s'est vu reprocher d'oublier la population de Gaza, qui souffre parce que, vous savez, depuis le bombardement de cet hôpital, entre autres, il y a d'énormes et d'énormes difficultés, et qu'à force de parler de la protection des populations civiles, quelles qu'elles soient, quel que soit le pays, et de dire qu'il faut faire jouer le droit humanitaire, eh bien, il faut apporter des réponses.
Et alors, il a amené quelques propositions.
Emmanuel Macron annonce ce soir quand même quelque chose d'assez important, en dehors du fait, évidemment, qu'il répète qu'il faut absolument que soit rétabli, tant que faire se peut, 2 États sur la bande de Gaza, un État palestinien et un État israélien, ça c'est sûr, ça c'est plus difficile. En revanche, sur la forme, puisqu'on lui reproche de ne pas aider suffisamment l'autre population, c'est la population de Gaza qui souffre et qui n'est plus ravitaillée en quoi que ce soit. Donc demain, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé qu'il envoyait sur place un navire affrété disposant de matériel médical, de médicaments spécialement dédiés à Gaza et à la population de Gaza. Voilà le geste qu'il fait pour répondre un petit peu à ce qu'il dit lorsqu'il dit il faut s'occuper des populations civiles, quelles qu'elles soient, qu'elles soient du côté de Gaza ou d'ailleurs. Eh bien, cette fois-ci, on lui a mis en quelque sorte, entre les mains, ses responsabilités, puisqu'il faut faire preuve aussi de diplomatie, mais pas seulement, aider les uns et les autres, donc sans difficulté. Donc, c'est le droit humanitaire qu'applique Emmanuel Macron en faisant ce geste fort de soutenir et d'apporter un soutien médical très fort aux hôpitaux de Gaza.
Et il rencontre aussi d'autres chefs d'État et de gouvernement de la zone. Hein.
Oui.
Et ça veut dire aussi que au Parlement, il y a comme une, je ne sais pas, une forme d'équilibre, parce qu'il y a toujours une condamnation de l'agression du Hamas.
Oui.
Mais tout de même, la prise en compte des Palestiniens, c'est quand même une évolution progressive, j'allais dire concrète.
Alors la prise en compte du peuple et de la population palestinienne, c'est sûr. Le problème, c'est d'arriver, comme me disait un parlementaire, à faire le tri. Lorsqu'on dit, voilà, à Gaza, il y a le peuple qui souffre, etc., oui, mais ce qu'on ne sait pas, est-ce que les parlementaires ne savent pas, comme les pays européens, si dans Gaza, il y a également et toujours des membres du Hamas? C'est ça le problème. Comment faire le tri? Et les Israéliens, on les voit. Ils sont prêts avec leurs chars à entrer dans Gaza à tout prix en disant à la population civile « Quittez les lieux, allez vers le sud parce que nous, on va débarquer et éradiquer tout ce qui se trouve au-dessus ». Oui, mais le problème encore, un des problèmes, c'est de savoir si cette population de Gaza n'est pas une sorte de bouclier face au Hamas qui se trouverait encore dans la bande.
On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir très largement, mais on peut dire que ça a été quand même très intense ces derniers jours parmi les débats au Parlement. Hein.
Alors, avec un reproche ou une demande expresse en dehors de la France, c'est toute l'Europe qui est sollicitée pour essayer de régler les problèmes. Mais le problème de cette diplomatie, ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'autant, encore une fois, qu'il y a une très très grosse incertitude. Il y a une information qui a été annoncée ce matin, laissant entendre, c'est peut-être du bluff, mais quand même, puisqu'elle est publique, autant le dire, que le Hamas disposerait quelque part, peut-être on dit, tiens, du côté de l'Iran, ça reste à voir, mais qu'il y aurait des centaines et des centaines de missiles qui seraient braqués sur Israël, prêts à décoller. Et comme les boucliers antimissiles israéliens sont, encore une fois, limités et qu'ils ne pourront pas tout capter, même si les Américains ont un énorme bateau pour leur venir en aide et pour limiter les dégâts, c'est une menace qui est dans l'air. Est-ce qu'elle est justifiée ou pas? Ça, on est incapable de dire. Néanmoins, c'est une information qui circule. Et dernière information qui a été recueillie par nos confrères de France 2, et ça va passer ce soir, aux alentours de 23h, une interview dont j'ai vu un extrait d'un responsable du Hamas, un haut gradé, qui réaffirme qu'ils veulent absolument éliminer le peuple israélien. Donc ça va faire encore du bruit. On est loin d'un accord tacite. On est loin du monde diplomatique dont on parle. Et c'est quand même vraiment très, très, très grave. Et ce peuple israélien, on sent bien, j'ai encore entendu aussi hier quelqu'un qui défend cette cause, la journaliste Anne Sinclair que tout le monde connaît, qui vraiment est sur la réserve en disant « Mais Israël veut se défendre jusqu'au bout ». Alors jusqu'au bout, c'est quoi? Jusqu'à payer le prix des personnes, jusqu'à payer le prix d'innocents, peut-être. Quand on voit cette masse de chars aux portes de Gaza, prêts à bondir, je dis bien prêts à bondir, ça laisse quand même beaucoup de questions en suspens.
Bien sûr, on aura l'occasion de suivre ça. Alors à l'Assemblée, c'est sûr, en ce moment, c'est un peu, je sais pas une atmosphère de vacances, mais tout de même, l'actualité politique nationale est quand même un peu au repos. On parle un peu du budget, de loi de finances, financement de la sécurité sociale.
Un dernier mot quand même, vous savez, passé sur l'histoire de Hamas, etc. On a reproché à la France insoumise pas mal de choses. Et les députés de la France insoumise, hier, ont tenu un langage quand même, non pas un petit peu différent, mais plus précis, condamnant les exactions de Hamas, condamnant le fait d'avoir tué, massacré des enfants, etc. Cette fois, ils le disent haut et fort. Néanmoins, il y a toujours une réserve pour dire que le Hamas est un organisme terroriste. Ça, on n'en est pas encore là. Mais néanmoins, ça évolue sur la façon de dire les choses et sur la façon, encore une fois, d'appréhender les choses. Il y a quand même une réflexion qui fait l'unanimité, celle dont je parlais tout à l'heure. C'est pas toujours apprécié d'un côté ou de l'autre, c'est de dire qu'il faut absolument restaurer au plus vite, alors au plus vite, vous vous rendez compte, il faudra peut-être des dizaines d'années ou jamais, deux États, un État palestinien et un État israélien qui puissent cohabiter ou vivre ensemble. Alors là, c'est un vœu très pieux,
si
j'ose dire.
Qui avait été annoncé déjà il y a très très longtemps, du temps même de Rabin,
ça revient, etc. Ça revient.
Alors, dans l'actualité au Parlement, pour terminer, bon, toujours le budget et puis
alors,
la sécurité sociale,
projet de loi de finances. Dans le PLFSS.
Et là, c'est le 49.3, de toute façon.
C'est la partie sécurité sociale.
C'est acté maintenant, c'est le 49.3.
La Première ministre l'a annoncé, de toute façon, comme il n'y aura pas de discussion, je vous annonce dès aujourd'hui 49.3. Alors, évidemment, ça rose pète, motion de défiance, etc. Bon, ça c'est très bien.
On a senti quand même, à propos du débat interne politique, que la Première ministre avait un petit peu rétropédalé tout récemment à propos de la caisse de retraite à Gircarco.
Oui.
C'est une caisse de retraite, alors qu'on parle des problèmes déficitaires des retraites, mais cette caisse de retraite de cadres est excédentaire, mais l'argent a été mis de côté par les cadres, et on veut, en parlant vulgairement, piquer l'argent qui est dedans, en fait.
Voilà, c'était presque acté, et là encore, la dernière nouvelle est tombée, il y a quelques heures, le gouvernement fait marche arrière, et on ne touche plus à l'argent de Harco, au bénéfice, si j'ose dire, à la réserve de Harco, qui a mis du temps.
C'est une
et
réserve.
Qui a fait une très très bonne gestion. Donc c'est une réserve pour les retraites, quelle qu'elle soit. Et donc, cette fois-ci, le gouvernement a dit, bon, on laisse les choses en l'état, on n'ira pas piocher de l'argent chez Harco. Donc,
c'est modéré, ça dit. Dans les 3-4 minutes maximum qui nous restent, il y a aussi, sur le plan politique, quelque chose qui est en proximité avec, ça nous fait penser à nos maires dans
tout
nos régions
fait.
Dont on parle tous les jours ici sur l'antenne de RCF. C'est une question d'assurance. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors ça a été évoqué au Sénat, qui représente évidemment, comme chacun le sait, toutes les collectivités locales. Il y a un sénateur qui a interpellé le gouvernement en disant voilà ce qui se passe dans un certain nombre de communes qui ont été touchées par des inondations, par des catastrophes naturelles, mais aussi par les émeutes. Certains établissements, que ce soit des salles des fêtes, des mairies, ont été saccagés. Et tout d'un coup, il faut
réparer.
Dans
notre région, il n'y en a pas trop. Hein,
non, mais bon, en France, notamment, on a donné l'exemple chez le voisin, Laurent Alaxou, le maire de Alaxou, qui aujourd'hui dit, mais j'ai pas les moyens.
Dans la banlieue de Nancy.
Dans la banlieue de Nancy. Et il dit, voilà la chose suivante. Admettons, il y a eu des dégâts, que ce soit pour les intempéries, que ce soit à la suite des émeutes, de, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros. Bon, les assurances, tous les maires, toutes les collectivités sont assurées pour des raisons ou une autre, y compris les attentats. Donc, les maires et les mairies concernées ont été indemnisés par leurs assurances. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça coûtait tellement cher aux assurances que de nombreux maires reçoivent aujourd'hui des lettres de résiliation de leur propre assurance qui dit « Écoutez, on n'aura plus les moyens de vous réassurer au cas où, donc maintenant c'est terminé ». Voilà. Et la question est posée au gouvernement, disant, attendez, les collectivités locales ne peuvent pas ne plus avoir d'assurance. Imaginons qu'il arrive une catastrophe et que des citoyens soient blessés, que leur maison soit inondée, massacrée, démolie ou autre. Il faut quand même avoir une assurance. Et là, c'est un véritable problème parce que si les communes, si certaines communes ne sont plus du tout assurées du fait de leur passé, et les maires n'y sont pour rien, hein, ce sont les incidents qui y arrivent, et là, ça pose problème. Et là, c'est une nouveauté, une nouvelle question pour le gouvernement qui doit à nouveau entrer en contact et faire ce qu'il faut. C'est ce qu'ont annoncé les ministres tout à l'heure, en disant qu'ils allaient interpeller toutes les assurances en leur demandant au moins de différer parce que ça devait s'appliquer déjà au 1er janvier prochain. Donc c'est trop tôt, les maires n'ont pas le temps de se tourner. Ce que va demander le gouvernement, c'est un délai. Continuer d'assurer les communes au moins pendant 6 mois et après on verra. Il faut qu'on étudie le problème ensemble.
Le problème de l'assurance des maires dans les petites communes.
Et vous aurez l'occasion de le reparler à votre micro.
On aura l'occasion d'en parler. Alors, comme vous le dites, en catastrophe naturelle ou peut-être en émeute, il n'y a pas énormément de communes dans le monde rural qui sont concernées. Mais enfin, il peut y avoir, bien entendu, des problèmes, des difficultés.
Vous savez, c'est valable aussi pour les particuliers. Hein. Vous avez 2-3 incidents dans votre maison qui ont coûté très très cher, 2-3 accidents de la route. Les assurances, au bout d'un certain temps, vous disent « vous avez eu trop d'accidents ». Eh bien, on résilie votre contrat, allez voir ailleurs.
Fernand, je vous propose de nous retrouver non pas la semaine prochaine, puisque c'est le 11 novembre, et que le 11 novembre, bien sûr, c'est férié, et que nous n'aurons pas la joie de vous retrouver dans un magazine régional. Je rappelle à ce sujet qu'à partir de lundi prochain, il y aura une émission locale dans les mêmes créneaux, de 18h10 à 19h, mais j'allais dire, chaque programme local retrouvera ses programmes spécifiques, que ce soit à Chalon
sauf
ou que ce
si l'actualité le nécessite urgemment.
Voilà, mais de toute façon, lundi ou mardi, si vous êtes disponible, Fernand, et qu'il se passe quelque chose, vous viendrez avec nous. Il est 18h50, vous êtes à l'écoute du magazine régional. On se retrouve dans un instant.
Le 18-19 sur RCF.
J'ai cru, Jean-Pierre, que vous alliez parler de magazine du week-end. J'ai eu peur, mais non, pas tout à fait.
J'ai encore patienté un petit peu. J'ai presque glissé sur le magazine du week-end, c'est le samedi. Il y en aura la semaine prochaine, cette semaine. Il n'y en aura pas, bien sûr, pour le 11 novembre, mais c'est pas tout de suite. On aura l'occasion d'en reparler.
Peut-être qu'on peut déjà donner une information à nos auditeurs, même si, parce que la fin de semaine se rapproche progressivement. La semaine prochaine, le magazine régional est transformé en magazine local par RCF France-Ardenne, RCF oui. Cœur de Champagne. Mais on va dire que le magazine régional, dans sa formule habituelle, prend un petit peu de vacances.
Voilà, il prend un peu de vacances. Il redémarre le 6 décembre, le 6 novembre prochain, à 18h10. Et puis jusque-là, donc, on aura un programme local avec nos éditorialistes et chroniqueurs qui viendront, sauf, bien sûr, le jour de la Toussaint.
Mais pour l'heure, ce que l'on vous propose, c'est de retrouver Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, qui revient de Lourdes, où il a participé à l'assemblée Kérigma, avec une délégation diocésaine de Reims, mais aussi une de Chalon. L'entretien, Jean-Pierre, c'est avec vous, évidemment.
Kérigma à Lourdes a rassemblé, durant plus de 3 jours, évêques, prêtres, laïcs, pour échanger ensemble autour du message évangélique, voir comment chacun a été investi dans une église plus missionnaire. Monseigneur, peut-on revenir sur l'événement de façon générale? Comment l'avez-vous vécu? Quels en sont les moments forts?
Alors, franchement, nous avons vécu 3 jours formidables depuis, alors ça aurait dû être vendredi soir, mais notre groupe de Reims est arrivé à cause d'une panne de train très tard, mais en tout cas donc de samedi, dimanche et lundi matin, on a eu 3 jours extrêmement dynamiques et dynamisants, avec 2500, je crois, participants de toute la France. Voilà, autour de ce mot kérigme, qui est un mot un peu barbare, en tout cas c'est un mot grec, donc pas barbare, mais enfin autour de ce mot grec, qui veut dire la proclamation, et il s'agit du cœur du message chrétien, qui est de croire que, ou de proclamer que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Voilà. Et donc nous avons alterné des temps de conférences, très samedi matin, très dynamique, très fort, très intéressant, des temps de célébration, des temps de table ronde et d'ateliers, qui permettaient de voir un peu la variété des initiatives qui sont prises un peu partout.
Les diocésains de Reims vous ont accompagné, Monseigneur. Ils ont eu aussi apporté leur témoignage. Ils étaient insérés dans des groupes, mais est-ce qu'il y a eu une démarche un peu commune du diocèse de Reims?
Alors la démarche commune, c'est déjà que nous avons vécu ensemble tout ce temps. Hein. Le groupe était en général assez, comment dire, nous assistions aux différents événements tous ensemble. En partie tous ensemble, et puis gens dans le même hôtel, donc ça a été l'occasion de pas mal d'échanges. Je pense que le train du retour aussi a été l'occasion d'échanges importants. Ça contribue, ce genre de déplacement contribue à faire se connaître des gens variés. Et puis nous avons eu un temps provincial lundi matin, qui était prévu par l'organisation générale, et qui était, je pense, un temps intéressant pour commencer à envisager les suites à donner à ce rassemblement, parce que le but, c'est que nous réalisions que dans toute notre pastorale, toutes nos rencontres, il faut que nous soyons capables de mieux dire cette vérité aux gens qui viennent à nous, que Jésus est mort et ressuscité pour eux.
Ça veut dire que c'est à peine une église missionnaire, c'est pas quelque chose à part auquel il faut penser de temps en temps, mais c'est quelque chose qui doit inspirer toutes les actions, toute la pastorale, dans tous les groupes, dans tous les mouvements, dans tous les services.
Exactement, vous l'avez bien compris, Jean-Pierre. De fait, l'archevêque de Tours, Mgr Jordi, a fait une belle conférence pour nous montrer comment depuis Vatican II, un peu avant d'ailleurs, mais depuis Vatican II, avec beaucoup de constance, tous les papes successifs invités à être missionnaires, c'est-à-dire à ne pas considérer, ne font plus considérer que l'Évangile soit l'air que tout le monde respire chez lui depuis qu'il est né. Et donc, il faut être capable, nous-mêmes, de rendre compte de la transformation que le Christ apporte dans notre vie, de la façon dont nous percevons que Jésus le ressuscité nous accompagne dans les combats que nous avons à mener chaque jour contre nous-mêmes, contre les épreuves, le poids du jour et le poids du temps. Mais un combat qui n'est pas un combat ni désespéré puisque le Christ est vainqueur, ni un combat contre un monde méchant, purement méchant, qui nous entourait, mais un combat qui consiste à apporter la lumière et à croire que la lumière de Dieu est présente et peut jaillir.
Donc c'est une démarche spirituelle qui doit et intérieure qui doit animer chacun. Mais vous, et on a cette chance dans le diocèse de Reims, comme vous êtes président de la conférence des évêques de France, tout le temps vous voyez ce qui se passe dans les autres diocèses. Alors sans chercher des trucs, comme s'il y avait un truc qui était une clé pour toutes ces questions, peut-être y a-t-il dans tel ou tel diocèse des initiatives un peu originales qui permettent cette transversalité d'apparaître plus facilement?
Oui, alors je me permets de dire que notre diocèse, quand même, dans le projet missionnaire le projet pastoral qu'il a adopté, ouvre quelques pistes quand même. Hein, et notre insistance sur les missions itinérantes relève de cette démarche. Après, il faut que nous soyons capables de partager cela sans les effaroucher, évidemment, mais aux gens qui viennent nous demander le baptême d'un enfant, aux gens qui viennent nous demander le mariage, voilà, ou des obsèques, qui le font parfois simplement parce que c'est le poids de, enfin, c'est la tradition de leur famille, c'est l'habitude de leur famille, sans toujours mesurer ce qu'il y a de fort et de bouleversant dans le message du Christ.
Ça veut dire, Monseigneur, que cet effort que chacun doit faire dans ses mouvements, son service, l'accueil des baptêmes, comme vous le dites, nécessite peut-être quand même une certaine formation, parce que les meilleures intentions du monde font que parfois on ne peut pas non plus choquer en étant beaucoup trop agressif dans la demande. Donc il faut... C'est pas si évident que ça, sans doute.
Non, de fait, et ça, surtout ça demande d'être capable de témoigner de son propre chemin, de témoigner de ce que nous vivons. Et donc plusieurs membres du groupe ont participé à un atelier qui consiste à apprendre à raconter, à rendre compte de son propre chemin, à rendre compte de la façon dont le Christ agit dans notre vie et nous aide à, et nous permet de la vivre d'une manière plus haute en quelque sorte, d'une manière nouvelle, d'une manière plus haute. Mais voilà, ça demande effectivement beaucoup de délicatesse, il ne s'agit pas d'asséner des choses incompréhensibles à des gens qui ne viennent pas les demander, mais de rendre témoignage de la vie nouvelle que le Christ nous permet de vivre.
Et le suivi, pour terminer, Monseigneur, il va y avoir donc au retour, que ce soit au niveau diocésain ou provincial, un suivi de ce qui vient de se passer à Lourdes avec Kérigma.
Oui, voilà, alors nous aurons l'occasion d'en parler entre évêques de la province et dans 8 jours pendant l'Assemblée plénière. Et puis, à l'échelle du diocèse, je compte bien réunir de nouveau ce groupe pour voir avec eux comment on peut davantage partager ce que nous avons vécu. Après, c'est à chaque membre de ce groupe. Déjà, ils ont été choisis un peu pour cela, parce qu'ils ont une certaine capacité de diffusion soit dans les services dont ils sont responsables, soit dans les lieux où il se trouve.
Pour terminer enfin, Monseigneur, on se retrouve d'ailleurs vendredi matin sur notre antenne, mais dans une dizaine de jours va débuter à Lourdes l'Assemblée plénière de l'Église de France. Alors cette question Église missionnaire, kérigma, elle sera peut-être aussi à l'ordre du jour d'une certaine façon.
Oui, elle est bien sûr, elle l'est tout à fait, elle sera fortement même à l'ordre du jour de notre Assemblée, parce que nous percevons et... Samedi matin, un sociologue bien connu, Philippe Portier, nous en a assuré. Nous sentons bien qu'il y a de fortes attentes dans notre spirituel et aussi peut-être religieuse dans la société autour de nous, en même temps qu'elle se déchristianise, qu'elle se sécularise, donc on apprend à vivre sans Dieu. En même temps, on voit bien que le besoin de sens, le besoin de comprendre ce que l'on vit, pourquoi l'on vit, et le besoin de découvrir que l'on vit, nous vivons notre vie sous un regard exigeant et aimant, eh bien ce besoin se fait jour de plus en plus, et donc il faut que nous soyons capables d'y répondre.
Merci en tout cas, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous, et puis à très très bientôt sur notre antenne. Au revoir.
Merci Jean-Pierre, merci à tous et à toutes.
Effectivement, merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Merci Jean-Pierre.
Oui, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, que nous retrouverons vendredi matin. Il sera en direct sur RCF Reims-Ardennes et le soir dans 18-19.
Mais d'ici là, on se retrouve avant demain à 18h10 pour un nouveau magazine régional. Et puis dès demain matin avec vos différentes rédactions locales, RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Jean-Pierre Benoît, vous serez là, vous êtes un lève-tôt avec Bernadette Courtehoux.
Absolument, Bernadette Courtehoux qui est déléguée diocésaine à la mission ouvrière.
C'était Thierry Delis à la mise en onde. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Tout de suite, l'information nationale sur RCF.